Le royaume des cieux est proche. Si nous vivons pour le Seigneur, c'est pour être avec lui toujours. Ça n'aurait pas de sens de l'aimer de loin, comme deux fiancés qui disent « on se mariera quand on sera à la retraite ». C'est pas impossible. Des chrétiens m'ont dit « vive, je ne voudrais pas que ces choses arrivent ». S'ils me disaient « je ne voudrais pas que mon mariage arrive ». Nous vivons pour être toujours avec le Seigneur. Et chaque jour, c'est un peu de construction d'éternité que nous faisons ensemble. Nous préparons le grand jour qui sera éternel. Je voudrais lire, il faut faire un choix, hein. Il y a beaucoup de choses sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et je vais lire avec vous dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Matthieu 25, je parlerai un peu de cette parabole, mais je vous parlerai un peu en général du royaume des cieux qui est proche. Il faut être spécialiste et généraliste. Spécialiste, s'arrêter aux mots, j'aime beaucoup faire cela, et le généraliste va prendre des pages entières pour résumer, comme Jésus le faisait. Matthieu 25, verset 1er. Les habitués savent que Matthieu 25, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles, des jeunes filles, folles et sages. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ou 10 jeunes filles qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voilà l'histoire. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases à part, pour mettre dans la lampe. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. » Nous avons déjà parlé sur cette parabole pour expliquer ce qui paraît parfois étonnant, qu'on laisse à la porte des jeunes qui étaient venus comme jeunes filles d'honneur, un mariage. Mais il y a une leçon que Jésus veut mettre dans son Église de tous les temps. Jésus, en prêchant le royaume des cieux est proche, il ouvre les portes du royaume des cieux à tous ceux qui entendent sa parole et qui la gardent et qui répondent à sa parole. L'Église, ce n'est pas un club, c'est un appel à écouter, à garder, à répondre. C'est le même message aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, ce n'est pas que le temps des apôtres, c'est le temps de nous aujourd'hui. Il faudra chanter et prêcher le royaume des cieux approche. On pourrait dire littéralement le règne de Dieu approche, le règne de Jésus approche. Jusqu'à la fin, nous prions que ton règne vienne. C'est le même message. Alors quand on dit le royaume des cieux est proche, ça veut dire qu'il y a tout un monde qui n'est pas le royaume des cieux. Et Jésus veut y mettre son royaume. Jésus veut faire irruption, veut entrer dans un monde qui n'est pas le royaume, qui s'est enfui, qui a fait la valise, qui est parti. Si le Christ dit « le royaume des cieux approche », ça veut dire qu'il approche d'un royaume contraire, le royaume de Satan. Satan sait que ce monde est à lui quand il dit à Jésus « tous ces royaumes et leur gloire m'ont été donnés et je les donne à qui je veux ». C'est son royaume. Parce qu'il l'a dérobé, volé à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce royaume-là. Nous sommes dans deux royaumes. Et dans ce royaume, Satan entrave la prédication de Jésus. Il enlève la semence des cœurs, trouble les consciences. Il sème de l'ivresse, de la zizanie, partout. Les églises, les maisons, les familles, les couples, les enfants. Oui, nous voyons bien que sur terre, il y a deux royaumes qui se confrontent, et parfois même qui s'affrontent. Il y a deux royaumes. Et je vois, nous voyons aujourd'hui que Satan renforce son emprise sur le monde. Nous voyons des choses aberrantes. Comment des êtres humains peuvent faire cela? Comment des êtres humains peuvent aller jusqu'à un tel point de cruauté? Satan renforce son royaume, même dans l'Église, qui a changé. Par rapport au début, nous voyons bien il y a eu des glissements, des changements, il faut le reconnaître. Charité du plus grand nombre se refroidira. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je le dis avec des mots très simples. Nous assistons à un effondrement des valeurs chrétiennes. Pas seulement un rejet de Jésus, mais les valeurs que le Christ a mises sur la terre, ces valeurs s'effondrent de plus en plus. La mentalité de l'Évangile, l'esprit de l'Évangile qui tenait les mariages unis, qui donnait du goût pour le travail bien fait, qui donnait des élans de générosité, l'esprit de l'Évangile diminue dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis. On a constaté une décadence dans l'ordre mental. Dans le mental des gens, il y a une décadence. On le dit, je l'entends tous les jours, comme le monde a changé, comme la mentalité a changé. Ce n'était pas comme ça de mon temps. Bien sûr, on compare toujours avec sa jeunesse. Mais il y a une décadence dans l'ordre mental, dans l'ordre moral et dans l'ordre spirituel. On vit ce que les civilisations d'autrefois ont connu avant leur disparition. Je pense à la civilisation romaine, la décadence du 4e siècle qui a touché l'Église, qui a été rasée, a été détruite, et puis d'autres sont venus ensuite, l'Église ne s'arrête jamais, mais cette décadence aujourd'hui, elle est là. Or, dans deux psaumes, dont le psaume 89, il est dit, la justice de Dieu et l'équité, la droiture de Dieu sont la base de son trône. Écoutez bien ça. Ça veut dire que la vie existe que s'il y a de la droiture, de la vérité, de l'ordre, de la justice. S'il n'y a plus ces valeurs, même le trône de Dieu vacille. Et le monde vacille aujourd'hui. Si on enlève ces valeurs, on a beau chanter et faire des belles choses sur la terre, et des Jeux olympiques, et des concours, etc., magnifiques. Le monde chancelle. Aujourd'hui, il y a une autre morale, je dirais une anti-morale, une morale pour la destruction de l'humain. Aujourd'hui, dans tous les domaines, on voit que l'être humain est menacé de destruction. Alors Satan, je vous dis ça parce que ça fait partie du message de Jésus. Le royaume des cieux est proche. Satan est animé d'une grande colère. Le Seigneur vient. Et Satan exerce son autorité de plus en plus forte sans être beaucoup gêné parce que l'Église peut-être se divertit. L'Église peut-être aime le plaisir plus que Dieu. Alors si Satan n'a pas de résistance d'homme, de femme, sérieux, de prière, de méditation, de juste, d'intercesseur, alors Satan, il y va. Et cette civilisation du plaisir que Satan sème dans tous les pays du monde, cette civilisation du plaisir, l'hédonisme, comme on l'appelle, elle envahit l'Église. Elle touche l'Église. Pas toutes les Églises, pas tous les chrétiens, mais elle frappe à la porte. Et pendant qu'on se divertit, comme les enfants d'Israël devant le veau d'or, au pied du mont Sinaï, se sont divertis, pendant qu'on se divertit, le diable sème partout son ivresse. On a l'impression que Satan, je ne vais pas parler que de lui, hein, conduit le monde à un anti-royaume. Babylone la Grande, voilà, dans la Bible, on a vu ça. Il faut prendre au sérieux aujourd'hui, à la veille de grands événements, il faut prendre au sérieux les paroles de Jésus, les paroles des apôtres. Babylone la Grande, c'est-à-dire une habitation, Babylone c'est une ville de l'ancien temps en Irak, mais ça représentait, ça imageait tout ce qui est contre Dieu. Et Babylone la Grande, l'Apocalypse dit, c'est un repère de démons, c'est un repère d'esprit impur, d'esprit pas droit, puis même mauvais. Et vraiment, le monde va vers cette Babylone, le monde entier. Alors il faut qu'on se ressaisisse tous. Il ne faut pas rester sur les souvenirs de jolis et beaux et très doux du passé. Il faut qu'on se ressaisisse parce que, Jésus le dit, hein, et l'Apocalypse le dit, Satan est descendu, animé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps. Lui, il le sait. Mais nous, on danse. Mais lui, il le sait. On n'a pas beaucoup de temps. Par conséquent, il va essayer, dans une colère immense, de détruire, de casser, de permettre que des lois soient votées contre la vie humaine, contre la naissance et contre la fin de vie, etc. Il est animé d'une grande colère. Je le dis, je ne dis pas ça comme un prophète de malheur. Il réussira à éliminer les vérités et les conviction chrétienne de plus en plus. C'est le père du mensonge. La Bible dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Beaucoup de gens. Le Seigneur nous prévient. Nous ne pourrons pas nous protéger parce que nous sommes baptisés et que nous avons connu l'Évangile dans notre enfance sur les bancs des écoles du dimanche. Il nous faudra une d'autant plus grande assiduité à la prière, une assiduité à la parole de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Et il nous faudra le secours de Dieu chaque jour. Parce que tu as gardé la parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui va ébranler tous les habitants du monde. Nous sommes dans ce temps-là. Et je vous le dis avec un cœur paternel, fraternel, pastoral. Ceux qui prennent de la distance vis-à-vis du Seigneur et de l'Église, ceux qui prennent de la distance n'échapperont pas à la subtilité du royaume de Satan, du menteur, de l'ange de lumière. Ils ne verront pas parce que c'est dans la présence de Dieu que nos yeux s'ouvrent. Alors Jésus, il nous parle avec des histoires qui reviennent. C'est le grand message du Nouveau Testament. Le royaume des cieux approche. Et Jésus nous parle avec des paraboles. Paraboles, ça s'adresse à tous. Lequel d'entre vous a 100 brebis ? C'est l'enseignement de ce matin des écoles du dimanche. Et s'il perd une brebis ? Alors tout le monde comprend. À l'époque, tout le monde avait des moutons, des chèvres. Il parle à tous et pourtant, il y a comme une force invisible, ennemie, qui insensibilise, qui anesthésie, qui obscurcit, qui rend l'intelligence aveugle. C'est un de mes mystères, je ne comprends pas. Il y a quelque chose dans l'air aujourd'hui qui anesthésie les gens sur l'appel de Jésus. Que Dieu nous garde. Amen. Le cœur s'endurcit. Et si le cœur s'endurcit, je parle comme la Bible, l'Esprit de Dieu se retire. Et Jésus dit, les prophètes, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Pourtant, l'histoire de la graine qui lève, tout le monde comprend. Vous ne comprendrez pas. Il y a quelque chose qui fermera vos oreilles parce que vous aurez dit non et le Saint-Esprit qui vous aide ne partira comme au jour de Noé. Et aujourd'hui, je le vois, en tant que pasteur. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de chrétiens que la parole de Dieu ne remue plus, ne bouscule plus, n'éveille plus. Beaucoup de gens disent « Non, nous ne marcherons pas comme ça, comme au temps de Jérémie. Non, nous n'écouterons pas le son de la trompette, comme au temps de Jérémie. » Quand Jérémie prêchait, on disait « Non, nous ne marcherons pas. » Ça ne marche pas. Non, nous n'écouterons pas la trompette de Dieu. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu, c'est une petite semence qui ne fait pas de pression, qui ne crie pas, qui ne hurle pas, c'est une petite semence, mais notre vie dépend de la semence. Une petite semence, parce que le royaume des cieux, ça ne nous bouscule pas dans un sens, ça vient tout doucement, sans pression. C'est un petit commencement. Mais ce petit pas est le plus grand pas de l'humanité, dire oui à la parole du Seigneur. Toute notre vie en dépend, toute la suite, jusqu'à l'éternité. Toute notre vie dépend de ce petit pas de l'acceptation de la parole de Dieu. Et voyez-vous, cette parole que Jésus sème dans les cœurs aujourd'hui, on sème tous les jours, elle rencontre de la résistance, des pierres, c'est la parabole des terrains. Elle rencontre des épines, des richesses, des plaisirs, du divertissement, du olé olé. Et cette parole, elle ne rentre pas. Les gens n'ont pas envie, ils ont mieux, ils zappent, ils s'en vont. Difficile. Voilà, c'est la parabole des terrains. Puis, je pourrais vous parler de la parabole de l'ivraie et du bon blé. Le maître sème du bon blé. Là, c'est Jésus qui, chaque jour, sème. C'est lui le grand semeur. C'est lui, pas moi. Et puis, un ennemi vient la nuit. Quand on dort, tout le monde est bien dans son lit. Et un ennemi vient et il sème de l'ivraie, de la mauvaise herbe. L'ivraie, ça donnait, ça ressemblait au blé et ça pouvait donner la mort, l'ivraie. C'est un poison, l'ivraie. Il sème l'ivraie. Et à la fin des temps, les moissonneurs sépareront l'ivraie, la mauvaise herbe et le bon blé. À la fin des temps, c'est l'histoire de la parabole. Quand le Seigneur viendra sur les nuées du ciel et que toutes les tribus de la terre le verront et se lamenteront sur lui, ils n'en reviendront pas. Alors il séparera. Il y aura une détresse exceptionnelle dans le monde. La Bible le dit, cette période sera tellement grave que les temps seront raccourcis. Ça ne durera pas trop longtemps. Parce que la Bible dit... Personne ne pourrait survivre. Nous, on a dans notre version, personne ne serait sauvé. Mais la version en grec dit, personne ne pourrait survivre. Mais aujourd'hui, mes amis, n'avez-vous pas l'impression que parfois, on étouffe. Moi, je ressens parfois comme un étouffement, un étau. On se dit, mais il y a quelque chose qui étouffe l'humanité aujourd'hui. Et le Seigneur dit, ça va devenir tellement grave, une période comme jamais on a connu. Les gens même demanderont la mort, tellement ce sera invivable. Eh bien, dans ce temps-là, il nous faudra être présents. Il ne faudra pas oublier les multitudes. Parce que parfois, j'ai trouvé de l'insouciance chez les chrétiens. Des gens qui disent, moi je suis chrétien, je suis heureux, je suis content, je vais bien. Puis à côté de nous, c'est la détresse, il y a un étouffement, il y a un étranglement. L'insouciance ne va pas avec la foi chrétienne, ça ne va pas ensemble. Le laisser aller ne va pas avec la foi chrétienne, ce n'est pas compatible. C'est comme un père qui sort de sa maison en feu. Et ses enfants sont dans la maison, mais il dit, « Oh Seigneur, je te remercie parce que je suis sorti indemne du feu. » Et tes enfants, ils sont où? Ainsi, nous ne pouvons pas être insouciants, repliés sur nous-mêmes, dans la gaieté, sachant que des temps tellement difficiles viennent. On l'a lu tout à l'heure. « Soyez irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Irréprochable, ça ne veut pas dire qu'on est tout guilleré, mais on porte les fardeaux du monde, on apporte Jésus au monde, on apporte un message dans cette génération parmi laquelle vous brillez, vous apportez quelque chose. Alors j'arrive à la parabole des 10 jeunes filles. Dans cette parabole, on ne voit pas le maître, le marié, séparés, on ne voit pas. Ils disent pas, bon, vous, je ne veux pas de vous. Je crois que cette parabole, elle nous montre une différence qui n'est pas visible aux yeux. Il y a 10 jeunes filles qui attendent, 10 jeunes filles d'honneur, 10 invités qui vont faire la petite fête pour la mariée et le marié. Les 10 viennent aux noces. Il n'y en a pas qui ont dit, oh, pas marrant d'aller au culte. Ils viennent tous aux noces. Le culte, c'est une noce. Seigneur est là, amen. Et puis, le marié, ça m'est arrivé dans les mariages, vous savez. Le marié a du retard. Le marié a du retard, mais pas 2 heures, 3 heures. il va arriver au milieu de la nuit. J'imagine le pasteur qui attend le marié qui n'est pas là. Est-ce qu'il vient ou il ne vient pas? On attend le marié qui ne vient pas. Et dans ce retard, les 10 s'endorment. Le marié ne va pas leur faire de reproches parce qu'elles dorment. Remarquez bien. Il n'y a aucune différence pour l'instant. Tous sont présents, tous attendent, tous ont mis leur plus belle robe et tous, toutes s'endorment. Minuit, voici le marié. Tout le monde se réveille, pas de différence pour l'instant. Et on veut allumer la lampe parce qu'il fallait accueillir le marié avec des petits flambeaux. Mais voilà que, voilà la différence. Il y a 5 jeunes filles qui n'ont pas pris de réserve d'huile. Parce qu'on ne peut pas penser qu'avec quelques grammes d'huile, on va éclairer toute une ville et pendant des mois. 5 étaient folles. Elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Mais que représente cette réserve d'huile? Ça veut dire qu'elles ont pris juste le nécessaire. Au jour le jour. Elles n'ont pas pris un peu plus. Beaucoup de chrétiens m'ont dit, mais je suis baptisé, ça me suffit. Je vais au culte de 2 ou 3 fois par an, ça me suffit. Elles n'ont pas pris de réserve. Nous prions, nous rendons grâce à table de temps en temps, ça nous suffit. Et avec ça, elles ont pensé qu'elles pourraient, que les gens ont pensé qu'ils pourraient tenir dans les mauvais jours que nous traversons tous. Toutes les 10 jeunes filles savent que le marié va arriver. Tous savent que l'époux, le Seigneur, c'est lui le marié, va venir. Toutes ont quand même des qualités. Mais il n'y avait pas cette réserve. Pour moi, cette réserve, ça correspond à connaître le Christ et grandir avec lui et toujours mieux le connaître. Pour moi, ça correspond à demeurer en lui et participer à la vie du Christ. Parce que sinon, nous manquons de lumière, nous manquons d'huile, nous manquons de vie. Vite, nos réserves s'épuisent. Le monde est épuisant. Les enfants nous prennent beaucoup. Le travail ou le non-travail ou la santé ou les difficultés, les crispations de la vie, ça nous prend beaucoup. Alors il faut de l'huile. Il faut la présence de Dieu. Nous sommes dans la même situation. Nous savons tous ici que le Seigneur va revenir. J'en parle avec des protestants, des catholiques, tous disent, oui, le Seigneur va revenir. J'en parle avec beaucoup de frères et sœurs évangéliques, oui, le Seigneur va revenir. Mais on ne sait pas quand. Je pense qu'on pourra en pressentir l'approche pour ceux qui sont éveillés devant certains événements. Mais je pense surtout, avec l'épître de Pierre, qu'on va ressentir son approche grâce à l'étoile du matin qui va briller dans notre cœur. C'est quoi cette étoile? Une lumière. Les jeunes filles avaient des lampes. Cette lumière que le Seigneur va allumer, ce n'est pas le grand soleil, ce n'est pas encore le grand jour, mais une petite lumière va s'allumer dans notre cœur et on va ressentir des choses plus clairement, on verra les choses plus clairement. La lampe des jeunes filles sera allumée. Mystérieux, mais le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il allumera l'étoile du matin. Mais quand même avec cette étoile, dans nos cœurs, c'est un jour inconnu. Je ne sais pas quand, ni l'année, ni le jour, ni l'heure. Il faut veiller constamment. faut se tenir prêt. Je n'ai pas dit qu'il faut se préparer. Vous savez, il y en a qui pensent qu'ils vont se préparer au dernier moment. Ils n'auront pas le temps. J'habite auprès de la gare, vous le savez. Quand j'étais un peu plus jeune, il m'arrivait parfois de préparer le matin toutes choses, la valise, etc., les papiers. Puis je partais 5 minutes avant le train. 5 minutes. Il faut le faire. Hein. Je courais. À l'époque, la gare était plus facile qu'aujourd'hui. Et puis hop, je sautais dans le train qui allait démarrer et hop, je partais. Voilà. Et aujourd'hui, il faut que je me prépare d'avance parce que la gare, c'est compliqué aujourd'hui. Mais ça va bientôt changer. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut se préparer parce que ça demandera du temps quand Jésus va revenir. S'il revient ce soir, vous n'aurez pas le temps. Il faut se tenir prêt constamment. Il faut être prêt constamment. L'un sera pris, l'autre laissé. Voilà, les dix jeunes vierges. L'un sera pris, l'autre laissé. Et les folles frapperont à la porte des noces. Ouvre-nous, ouvre-nous. Je ne vous connais pas. Étonnant. Elles ne sont pas connues du Seigneur. Ce qui veut dire, elles n'ont pas vécu avec le Seigneur. Elles n'ont pas été un même esprit avec le Seigneur. Elles ne le connaissent pas. Vous savez que dans la Bible, connaître, ça veut dire aimer. Adam connut sa femme. Il l'a aimée, physiquement, spirituellement, intérieurement. Et si on ne connaît pas le Seigneur, on ne pourra pas entrer avec lui en communion. Au dernier moment, au dernier souffle, on n'aura pas le temps, on ne saura même pas ce que ça veut dire. C'est toute la vie chrétienne. C'est comme un couple qui ne s'aime pas de toute leur vie. Ils se battent, ils se disputent, ils se chamaillent. Et puis au dernier moment, sur leur lit de mort, le mari dit enfin à sa femme, « À partir d'aujourd'hui, je vais t'aimer, ma chérie. » Ce sera un peu dur. Il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas. Il n'aura pas le temps. Je pense que pour partir avec le Seigneur, il faudra le connaître dans toute notre vie, tous les jours, toutes les nuits. Demeurez en moi, restez, et je demeurerai en vous. Amen. Jusqu'à maintenant, ça va? Ah, je suis quand même un petit peu étonné. Je ne vous connais pas. Quand même, on t'a attendu toute une partie de la nuit, on est venu pour ton mariage, je ne vous connais pas. On a l'impression que il n'y a plus de miséricorde. Moi, j'ai l'impression que j'aurais dit, bon, allez, écoutez, rentrez, c'est pas grave. Vous n'avez rien payé, mais c'est pas grave, rentrez, vous n'êtes pas prêts, mais entrez quand même. La miséricorde du Christ, c'est aujourd'hui. Et si le Seigneur nous laisse cette parabole et d'autres paraboles, ce n'est pas la seule. Il y a des centaines de versets bibliques qui vont dans le même sens. C'est pour nous dire, quand la porte sera fermée, le Seigneur nous dira, vous avez eu tout le temps de votre vie et vous avez conservé un rejet de ma parole, une froideur envers moi, un refus de mon amour. Vous avez conservé une colère envers les autres, vous avez conservé un éloignement de mon royaume. Vous avez déjà choisi. On choisit tous les jours de sa vie. Alors, je vais conclure avec cette parole de l'Épître aux Hébreux. Vous savez que le peuple d'Israël a traversé le désert avec beaucoup de murmures et de colère et de beaucoup de problèmes. Ça, c'est le peuple d'Israël d'autrefois. Et quand ils sont arrivés, eh bien, ils n'ont pas pu rentrer en terre promise à cause de leur incrédulité. Comme la jeune fille, les jeunes filles vierges. Alors, je vais conclure en disant, le royaume des cieux est proche. Vous l'avez entendu. Je cite avec l'Épître aux Hébreux, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrée est toujours là, craignons donc, afin que personne ne vienne trop tard pour entrer dans son repos. Craignons donc, veillons chaque jour, prions chaque jour. Nous sommes chrétiens chaque jour. Nous ne nous permettons pas qu'aucune méchanceté, aucune mauvaise pensée, aucune colère, aucune animosité, mais plutôt des paroles qui édifient le prochain qui est comme vous, en marche vers le Seigneur, peut-être à travers des temps de souffrance particulièrement difficiles. Ne le laissez pas. Donnez-lui des paroles, mais vous ne bougez pas. Votre Maître vient, le royaume des cieux est proche. Amen. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas arriver trop tard. Je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres, comme dit l'apôtre. Nous ne voulons pas être rejetés, mais nous voulons être accueillis dans ton amour, dans la joie du Maître. Parce qu'être chrétien, c'est vivre avec toi chaque jour. C'est mourir avec toi et c'est continuer avec toi dans le royaume éternel. Sinon, rien n'aurait de sens. Garde-nous dans la fidélité. Garde-nous loin du tentateur, de ses manœuvres. Donne-nous les armes, le casque du salut, le bouclier de la foi. Donne-nous ces armes pour résister dans les mauvais jours que nous traversons et rester devant nos enfants, nos familles, devant l'Église, rester chrétiens fidèles de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. Je veux l'appliquer à ma propre vie cette semaine. Personne ne sait le jour et l'heure, mais je sais une chose. Tu viens bientôt, tu nous aimes, tu nous appelles. Amen. On peut réfléchir un peu. Qui a lâché la main du Seigneur ? Qui traverse cette vie sans réserve ? En comptant simplement qu'il est chrétien et que le bon Dieu ne le refusera pas. Qui pense cela? Qu'on peut faire ce qu'on veut avec son corps, son âme, sa parole, sa langue, ses biens, son temps. Et que ce n'est pas grave. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je viens bientôt. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, certains parmi nous ont besoin de se réengager. Leur lampe n'a plus d'huile. Ils ne prient plus, ils sont devenus secs, ils ont peur simplement. Il y a de la superstition, ils ont peur simplement. Alors ils sont là. Mais ils ne sont plus dans l'amour du Christ. Je les invite à s'approcher de Jésus, à prier et Dieu répondra à votre appel. Amen.